Maurice Magre, l'automate. Monsieur Solon, physicien et chimiste, homme d'un grand savoir, fut appelé, à la suite de la mort d'un de ses amis, dans un château en Allemagne, pour dresser le catalogue d'une ancienne bibliothèque. Quelle ne fut pas sa joie d'y retrouver un manuscrit de Paracelse qui traitait de l'étude à laquelle il avait voué sa vie. Monsieur Solon, en effet, tentait depuis des années, dans son pauvre petit appartement de Paris, de refaire l'œuvre de la nature, de créer avec la matière un être vivant ayant la forme et la pensée de l'homme. Or, cette chimère, qui était celle de Paracelse, elle était réalisable, possible. Le grand homme l'affirmait et donnait la formule dans un manuscrit qui était de la fin de ses jours. M. Solon repartit pour Paris en emportant précieusement sa trouvaille et se remit en travail. Il resta enfermé 2 ans dans son cabinet, penché sur un automate dont chaque pièce était un miracle d'imitation. Cet automate représentait un jeune homme dans la force de l'âge. Il avait donné à son corps d'harmonieuses proportions et à son visage une extrême beauté. Enfin, un jour, le savant trouva le mouvement et la vie, et l'automate se mit à marcher. C'était un premier résultat appréciable. Mais Paracelse disait que l'on pouvait aller atteindre le plus grand et plus fort, et M. Solon passa encore 3 ans en tenant dans la main le cerveau de son automate pour lui donner la pensée. Il l'avait provisoirement installé, habillé d'une livrée de domestique, estimant qu'il était inconvenant qu'on voit un personnage nu se promener dans l'appartement d'un vieux savant. Monsieur Solon était pauvre. Il n'avait aucun serviteur. Il ouvrait lui-même sa porte. Un jour que, découragé, il avait remis le cerveau dans le crâne de l'automate et se prélassait devant son feu, quelqu'un sonna. « Va ouvrir et fais entrer !» dit plaisamment M. Solon à son compagnon inanimé. Et voilà que l'automate se leva et alla ouvrir la porte. Sans qu'il s'en doutât, une pression imperceptible, une goutte d'eau ajoutée, avait donné à l'automate la précieuse faculté de penser. M. Solon donna à l'automate toutes sortes d'ordres que celui-ci exécuta immédiatement. Il le fit mettre à 4 pattes, il le fit danser, et la parole lui vint. Mais l'automate ne disait que les choses que le savant savait, qu'il suggestionnait. Il n'avait pas de personnalité, de volonté. L'affirmation de Paracelse était pourtant formelle. Il fallait aller plus loin encore. Oh, je ne révélerai ma découverte au monde que lorsque mon personnage sera complet. Alors là, ma gloire sera d'autant plus grande, se dit M. Solon. Donnons-lui la volonté. Il chercha encore 2 ans inutilement. Un de ses amis de l'Institut l'invita sur ses entrefaites à une soirée mondaine. Monsieur Solon trouva plaisant d'amener son automate dans le monde. Il acheta un habit, des souliers vernis, enfin tout ce qu'il fallait, et il partait avec lui. En lui ayant appris les formules de politesse qu'il convient de savoir. Quel étonnement dans le monde quand je raconterai cela, pensait-il. L'automate obéit passivement aux ordres du savant, salua, remercia et but du champagne. C'est mon filleul, disait M. Solon. Et chacun venait le féliciter de la beauté et de la distinction du jeune homme. Mais vers le milieu de la soirée, une jeune femme passa près de l'automate et le regarda avec un sourire. La surprise du savant fut grande quand il vit l'automate se retourner et suivre la jeune femme dans la foule. Il le perdit de vue et quand il le retrouva 1 heure après, il était dans un petit salon écarté près de la jeune femme qu'il avait suivie. Il lui parlait avec animation et celle-ci l'écoutait complaisamment avec un mélange de trouble et de plaisir. Mais voilà qui est merveilleux, pensa M. Solon. Il s'approcha et sa surprise augmenta quand il entendit les propos que disait l'automate. Il me semble que j'existe seulement depuis le moment où je vous ai vu. Avant, je remplissais sans y penser les actions de la vie comme un ridicule automate. Je vous aime et je veux vous épouser. Ces paroles banales prenaient un grand charme à cause de leur vérité, mais M. Solon, effrayé, intervint, balbutia mille excuses et emmena l'automate. Il était tard, ils rentrèrent. M. Solon fit alors de sévères observations sur la conduite inconsidérée de l'automate. Et comme il le menaçait de lui faire reprendre son premier emploi de domestique, celui-ci le gifla. M. Solon sentit la dureté de ses doigts qu'il avait fabriqués avec tant d'art. Bien, mon œuvre est réalisée, songea-t-il. Je lui ai donné la volonté, mon automate est libre. Demain, je réunirai tous les savants que je connais et je leur expliquerai ma découverte, qui est la plus grande qu'on ait jamais faite. Mais le lendemain, l'automate était parti en emportant le peu d'argent que possédait M. Solon. La douleur du savant fut immense. Il erra plusieurs jours et plusieurs nuits, cherchant son œuvre perdue. Puis il attendit chez lui en pleurant. Oh, ce n'était pas la gloire qu'il regrettait. Il aimait cet automate comme son fils et son cœur paternel, c'est lui qui souffrait. Il vieillit. Il devint très pauvre, ses amis l'abandonnèrent, peu à peu, on disait de lui que ses facultés s'étaient affaiblies. Une nuit qu'il regardait la sortie de l'opéra, dans le confus espoir de voir passer l'automate, il vit, donnant le bras à une élégante jeune femme, un personnage en habit d'une grande beauté, dans lequel il reconnut celui qu'il avait créé. C'était bien lui, à peine si une certaine raideur dans ses mouvements pouvait rappeler que c'était non pas un être vivant, mais un automate. Monsieur Solon poussa un cri de joie et s'élança les bras tendus. L'automate l'arrêta d'un geste glacial. Vous avez à me parler, dit-il. Bienvenue dans mon hôtel. Mais comme ma voiture ne saurait vous contenir tous les trois, vous monterez à côté de notre cocher. Le savant obéit. Et il apprit, chemin faisant du cocher, que l'automate avait épousé une très riche comtesse du faubourg Saint-Germain, qu'il avait fait une carrière brillante dans la diplomatie, et qu'à cause de son allure correcte, régulière, un peu automatique, on avait reconnu en lui de brillantes facultés de représentation et qu'il venait d'être nommé ambassadeur de France à Londres. Monsieur Solon entra dans un riche hôtel et une fois seul avec l'automate, il laissa éclater l'amertume de son cœur. Quoi, dit-il, je t'ai créé lentement de ma pensée et de mon effort. Chaque goutte de ton sang est une journée de ma vie. Et voilà comment tu me remercies. Tu m'abandonnes. Et ce soir où je te retrouve, tu me fais monter à côté de ton cocher comme un serviteur. Mais je vais me venger cruellement. Je vais apprendre à tous ton secret et dire que tu n'es qu'un automate et te faire enfermer dans un musée. L'automate haussa les épaules en souriant. Mais vous êtes pauvre et j'ai pitié de vous. Vous viendrez à l'ambassade avec moi. Vous revêtirez une livrée semblable à celle que vous m'avez fait revêtir jadis. Vous ouvrirez la porte, vous m'obéirez. Vous serez pour moi le tomate que j'ai été pour vous. Le savant s'enfuit indigné et il se rappela alors, en le regrettant amèrement, qu'en faisant son automate, il lui avait mis une petite pierre au milieu du cœur. Les journaux annonçaient quelque temps après que M. Solon avait été enfermé à cause d'une étrange folie. Il prétendait que l'ambassadeur de France en Angleterre n'était pas un homme vrai, mais un être de sa fabrication. L'automate mourut l'hiver suivant. Le froid fut très rigoureux. La pierre qu'il avait dans le cœur se fendit.